Así. Nous commençons la méditation avec la posture. Point principal, que la colonne vertébrale reste toute droite. Il est recommandé de temps en temps de basculer en avant le bassin pour assurer ce dos droit. Puis une fois confortablement établi, de façon détendue et attentive, nous dirigeons notre concentration sur la base des narines et en observant le mouvement du souffle, nous calmons notre esprit. Dans un esprit qui graduellement devient vaste, clair, et dans le calme, gagne stabilité. Nous formulons trois niveaux de motivation. D'abord, nous nous déterminons de rester attentifs, concentrés pendant la durée entière de la méditation. Puis, nous nous motivons de pouvoir profondément comprendre pour pleinement pouvoir y adhérer. La loi de cause à effet. Puis, en nous situant dans l'étape actuelle de notre chemin, nous nous motivons pour l'attente rapide de l'état ultime de notre esprit. Afin de pouvoir devenir pleinement utile pour autrui. Regardons l'itinéraire que nous avons parcouru pendant la première partie du PEVA pour arriver là où nous sommes en ce moment-ci. Par l'expérience de souffrance intense ou par les empreintes d'une familiarité, adhésion, passée avec l'enseignement de Bouddha Shakyamuni. Nous Nous avons trouvé cet enseignement dans cette vie-ci. Il y a donc une voie pour se libérer des souffrances et pour trouver bonheur comme nous le cherchons. Comme cette voie nous est présentée, sous la forme d'un texte, d'un enseignement, d'un maître contemporain. On nous informe d'abord de l'authenticité de ces enseignements, de leur qualité. Puis, contemplons la nécessité d'un guide. Et toute la gamme de qualités qu'il doit posséder pour devenir un Bouddha pour nous. Puis commence l'apprentissage par rapport à la description que l'enseignement du Bouddha donne de notre existence. On parle de notre précieuse, parfaite renaissance humaine. Puis du fait que nous allons certainement la perdre. Dans un type d'existence qui est marqué par impermanence. Jusqu'à là, tous les sujets traités sont vérifiables, accessibles à l'outil de notre logique. Puis, on nous parle de renaissance. De l'après, la mort. Puis on nous parle des états d'existence aussi terribles que nous nous trouvons dans l'incapacité de les imaginer. Puis nous rencontrons la notion de refuge. Le principe d'existence, de vie, de renaissance depuis son commencement. L'existence des trois royaumes infortunés. Au moins de deux parmi eux. Et les qualités des trois joyaux de refuge sont des domaines qui, en bonne partie, se trouve au-delà de la portée de notre perception directe. D'où la nécessité d'être convaincu de l'authenticité de cet enseignement et surtout de l'intégrité, pureté et bienveillance totale du guide. Car nous serons obligés de croire. Pour le moment. Car l'état ultime, le potentiel le plus élevé de notre propre conscience que nous avons depuis tant son commencement et en ce moment-ci, est justement cet état de Bouddha. Qui, dans son omniscience, perçoit tous les phénomènes directs, simultanément. Puis maintenant, il nous en parle. Puis, à la limite, entre la description de la voix, de l'être, de petite capacité, et la description de la voix, de l'être de moyenne capacité, nous rencontrons le sujet de la loi de cause à effet. Nous pouvons nous rendre compte que dans le domaine de la matière, nous la connaissons, nous la maîtrisons, nous l'appliquons. Parfaitement. Cette loi de cause à effet. Connaissance intime et profonde de laquelle est la base même de nos sciences. De toute construction technique. De l'informatique. Nous sommes fermement convaincus du fonctionnement de cette loi. Le moment même quand nous appuyons sur notre télécommande, attendant que la télé s'allume. D'autre part, la sagesse des humains de nos civilisations connaît également bien cette loi de cause à effet. On se couche quand on a fait son lit. Dans la langue du Bouddha Dharma, karma est inéluctable. Ou alors, dans la langue de la Bible, vous récolterez ce que vous aurez semé. Puis, qui sème le vent récolte la tempête. Dans la langue du Dharma, le karma s'accroît. En amont, on dit une bonne conscience est un doux oreiller. Dans la langue du Dharma, les actions non accomplies sont sans effet. Puis, aussi en allemand, les moulins du Seigneur moudent lentement. Ou dans la langue du Dharma, les actions accomplies ne s'épuisent jamais. Cette connaissance et sa description dans les mots de la Bible et dans nos dictons, adages, cette connaissance peut devenir très précise. Quand Jésus-Christ dit « Le raisin ne pousse pas sur les épines, ni les figues, sur les chardons. » Ça sonne étrangement comme l'exemple bouddhique. Si on sème une graine de blé peut résulter qu'une plante de blé, jamais une plante de poivron. Cette loi nous est donc familière, bien connue. D'où vient notre problème de l'accepter pleinement? L'interprétation en détail de cette loi qui nous vient du regard omniscient de Bouddha Shakyamuni. Le simple constat, par exemple, que toute expérience que nous faisons font tous les êtres dotés de conscience, vivants. Que toutes ces expériences, en tout détail, jusqu'à la plus petite, sont des apparences karmiques. Des instants de maturation, des graines, empreintes, potentialités laissées par nos actions physiques, verbales, mentales. Tant soit cette vie-ci en exception ou une vie antérieure. Rien de ce qui nous arrive n'est pas une manifestation de l'œuvre de cette loi de cause à effet. Rien. Ou alors la difficulté que nous éprouvons d'accepter ce qui semble en détail, mais est une particularité de cette loi, de la plus grande conséquence. Que le karma s'accroît. Un rythme extrêmement accéléré. Terminons donc en nous rappelant de deux choses. Dans la définition que Bouddha Shakyamuni a donnée de son enseignement, où il dit de s'abstenir soigneusement de toute action créant souffrance pour les autres ou nous-mêmes, de s'efforcer le plus possible dans toute action créant bonheur pour les autres ou nous-mêmes. Dompter notre esprit. Ceci est l'enseignement de Bouddha Shakyamuni. Remarquons donc que dans ces trois lignes de définition, deux sont consacrées à l'observation de la loi de cause à effet dans notre vie. Et tout le reste, l'immense édifice de la voie bouddhiste, a cela comme base et en résulte. Dompter son esprit. Puis alors, rappelons-nous. Que l'enseignement du Bouddha est divisé en enseignement de sens définitif et enseignement de sens interprétatif. L'enseignement de la loi des causes et effets ne fait pas partie des enseignements à sens, de sens interprétatif. Si nous avons pu engendrer un potentiel d'énergie bénéfique, par notre effort dans cette méditation, et notre ouverture et bonne volonté de nous imprégner de cet enseignement, comme il est transmis, nous pouvons l'investir dans la réalisation très rapide et complète, sans aucun obstacle. De notre objectif ultime. Développer l'esprit jusqu'au point où nous réalisons son potentiel le plus élevé, ultime. Puis servir autrui. Merci.